Note d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATAC.
Alors ce soir, nous recevons Blaise du collectif Pour le Triangle de Gonesse, qui va nous expliquer l'actualité de ce coin du nord de Paris et des manifestations à venir. Mais on doit aussi dire que c'est une émission un peu particulière pour nous, vu que nous avons perdu, qui nous a quitté, Patrick, qui était à la fois un animateur de cette émission, dans cette équipe, et qui a été longtemps aussi le dessinateur du journal Le Piaf, qui a été au centre de toutes nos attentions pendant quelques années au sein de cette équipe. Alors on va mettre un peu de son autour de ça, et bien évidemment on va commencer par écouter Patrick qui, il y a quelque temps, c'était le 9 mars 2018, nous racontait les mots.
Oui, on aura tout vu. On aura aussi tout entendu après avoir écouté ces chroniques de Jean-Marc et aussi après avoir écouté un texte de Patrick qui s'intitule « Les mots ».
Tout va bien ? Tout va mal ? Tout va bien mal ? C'est juste une question de mots. Moi, face à face, je le dis, et les yeux dans les yeux, en l'absence de croissance, plus personne ne croit. C'est une question de bon sens. Pour trouver le sens, il te faut faire face. Soit tu piles, soit tu passes, ou tu te casses. Confiance, confiance, le profit se profile, jamais de face. Oui, mais voici que rouille la clé de nos songes. Voici que nous verrouillent les mensonges et Shakespeare soupire dans nos draps. Venise est marchandise, Hamlet se prend la tête, le roi Lear est en plein délire, Roméo solde Juliette. Ladies and gentlemen, on nous apprend qu'Henri XV vient de massacrer Henri XIV, comme celui-ci lui avait enseigné lui-même, lorsqu'en douceur il assassina Henri XII, puis Henri XIII, yes sir, très aimablement. Qu'importe, qu'importe si les mots nous rapportent. Les mots nous ont perdus, car nous avons voulu posséder les mots, oui. Nous l'avons voulu. Nous avons dit au verbe « soumets-toi ou je te tue ». Et le verbe « sais-tu ». Place, place, les mots errent en ectoplasme, à la quête du sens disparu. Les mots sont à la rue, surgissant des bouches comme des égouts, sans goût. Toutes les bouches ne sont pas bonnes à dire, soumises aux médias mots qui prostituent leur innocence. Qui peut se prétendre redresseur de mots ? À la bourse de l'instant, les mots qui ont la cote, sans plus d'attente, grimpent à l'assaut de leurs dividendes. Le marché s'offre des mascarades où le vrai dit le faux, et chacun est actionnaire à son niveau. Les mots tuent les mots dans un grand logocide. Je ne sais plus même si ce que tu parles vient encore de toi. Je ne sais plus moi-même si ce que je parle est encore de moi. Moi qui suis parlé par les mots qui nous litanisent, nous colonisent, nous vampirisent. Nous prenons la cohésion dans la réconciliation des désunions. Nous projetons un grand rassemblement rassemblant les rassemblés dispersés. Nous affirmons le respect des convictions morales, immorales, amorales et de la moutarde amorale. Nous défendons l'égalité pour tous, pour les femmes comme pour les hommes et comme pour tous les autres, dans la transparence des esprits, des cœurs, des corps, des jupes et des robes. Nous voulons pour chacun et pour chacune, biscuit brun et pâte à lune, pour chacun, pour chacune, biscuit brun, pâte à lune. Vous avez les capacités nécessaires. Vous êtes force de proposition. Vous maîtrisez le turnover, le coaching, le reporting, le data mining. Votre répertoire est aussi rempli que votre agenda. Il concerne les milieux politiques, financiers, industriels, judiciaires, mafieux et bien sûr les médias. Vous êtes force de négociation gastronomique, aussi à l'aise dans les pots de vin que dans les dessous de table. Vous êtes force de frappe. Vous savez punir les balances et balancer les traites. Vous êtes sans pitié. Vous êtes l'homme qu'il nous faut. Peut-être même la femme.
Les vertus, bah c'est dur. Et nous venons d'entendre donc un hommage à Patrick, mais ce n'empêche pas l'actualité de tourner et malheureusement ou heureusement, Jean-Marc, d'écrire des chroniques. Et alors cette chronique, la première, ça nous parle de l'actualité bien triste aussi, celle qui a concerné Christine Renon.
Alors il n'y aura pas de Légion d'honneur pour Christine Renon, pas de beau discours du président aux Invalides ou ailleurs. Christine Renon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est cette directrice d'école de 58 ans qui s'est suicidée dans son école, poussée à bout par un système absurde qui écrase les enfants et les personnels, poussée à bout par le manque de moyens, poussée à bout par les injustices, poussée à bout par le cynisme et l'indifférence de sa hiérarchie. Ce cri final de Christine Renon, c'est le cri de millions de Français écrasés, méprisés, dépréciés par des politiques dégueulasses qui les précarisent, les malmènent, les appauvrissent. Nous sommes tous, ou presque tous, des Christine Renon. Mais pour toutes les Christine Renon de France, il n'y a pas de cérémonie, pas de discours, pas de Légion d'honneur. Pour toutes les Christine Renon de France, il n'y a que des gaz, des LBD, des gardes à vue, des yeux crevés, des mains arrachées, pour seul dialogue et pour seule oraison.
Alors, on a une petite envie de faire un indicatif.
Exceptionnellement, aujourd'hui commencera demain.
Et on continue avec les chroniques d'actualité. Jean-Marc qui nous parle de Macron et son double.
Alors, parmi les nombreuses qualités bien connues d'Emmanuel Macron, la duplicité occupe une place de choix. Le pantin des milliardaires, qui tente toujours de se présenter comme novateur, a simplement remplacé les opportunistes de la droite d'hier par une nouvelle génération d'opportunistes de droite qu'on appelle LREM. Dernière expression, donc, de la duplicité présidentielle, le discours sur l'immigration et celui sur la tuerie de la préfecture. Sur l'immigration d'abord, le président, sans complexe et sans morale, n'hésite pas, en cette période préélectorale, à relancer pour la millième fois le débat ridicule et nauséabond sur l'immigration, en utilisant, pour achever LR et chasser sur les terres du RN, les arguments infondés de l'extrême droite sur l'appel d'air, sur les aides médicales, sur le tri des demandeurs et autres saloperies. Rien ne tient face aux vrais chiffres fournis par la CIMAD et d'autres associations de terrain. Mais ce pouvoir, qui s'autoproclame humaniste, n'en a cure. Que sont donc quelques morts, quelques vies détruites, à côté d'une réussite électorale escomptée ? Visiblement, rien. Deuxième aspect de cette duplicité en ce moment, c'est la tuerie de la préfecture. Le président, ne répugnant devant rien, rend des hommages aux victimes. Il adore ça, car c'est bon pour sa cote, c'est bon pour son image. Et en plus, il va rencontrer les familles, ça fait humain, moins technocratique. Mais pour leur dire quoi, au fait ? Qu'à force de supprimer partout des fonctionnaires, il n'y a même plus les moyens de faire de la prévention. Qu'à force de supprimer partout des fonctionnaires, il n'y a même plus les moyens de faire des enquêtes internes. Que la France dépense des milliards au Mali pour lutter contre le terrorisme, pendant que Macron et tous ses prédécesseurs vendent à tour de bras des armes aux monarchies du Golfe qui soutiennent presque discrètement le salafisme et le terrorisme. Je suis sûr que les familles des victimes seront pleinement réconfortées.
Un petit interlude dans ce monde de brut, lecture de Mémoire de l'imaginaire, texte issu de Fragments de Patrick Ledivna.
Après la mort du point-virgule, ce fut bientôt la virgule qui se révéla moribonde, victime de plusieurs virus venus de l'Internet, des messages téléphoniques, des corrections et traductions automatiques, de l'obsédant souci de rentabilité et du remplacement progressif de l'école par le téléenseignement. Tandis que les guillemets et les deux points étaient sous perfusion et que le point lui-même vacillait, on constatait paradoxalement que le sort des points d'exclamation ne suscitait aucune interrogation, que l'usage des points d'interrogation ne risquait guère d'être suspendu, et que l'on s'exclamait sur le foisonnement des points de suspension. Il y avait une évidente disparition des signes purement informatifs au profit des signes expressifs. La civilisation, submergée d'informations, tournait désespérément ses espoirs vers d'ultimes émotions et, dans sa quête de valeur, détrônait les grammaticales pour vénérer les affectives.
Mais Jean-Marc, tu peux couper Patrick. Hein. Vas-y, continue avec ta chronique suivante. C'est attention, un Macron peut en cacher un autre.
Alors, toujours sur le petit roi de l'Élysée, qui, quoique encore jeune, a déjà eu plusieurs vies, comme chacun sait. Avant d'être adoubé par le club des milliardaires pour le poste qu'il occupe, il a été ministre, conseiller à l'Élysée et banquier, bien sûr. Ces différentes vies se recoupent néanmoins dangereusement dans le dossier General Electric Alstom. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter ou voir sur le site de Là-bas si j'y suis leur excellente enquête sur le dossier Alstom. Macron, le banquier, a conseillé donc les parties dans la négociation de vente. Macron, le conseiller de l'Élysée, a encouragé les parties à conclure. Macron, le ministre, a signé les accords liant les parties avec l'aval et la garantie de l'État. Quelle suite dans les idées ! Cette belle opiniâtreté tombe cependant sur un os cette semaine. Deux syndicats d'Alstom ont décidé de porter plainte contre l'État, puisque General Electric ne respecte pas ses engagements, garantis par l'État, et veut lourder les employés de Belfort. Alors même que l'usine est rentable et les carnets de commandes pleins. Tandis que l'État, dont le président est un certain Macron Emmanuel, roupille. Cette plainte va donc aboutir à une enquête, laquelle risque de déterminer une responsabilité récurrente de tous les Macrons successifs, avec à la clé deux options peu favorables au roquet omniscient. À savoir que, première hypothèse, soit les Macrons successifs ont été naïfs et incompétents, et pour un chef omniscient, ça la fout mal. Soit les Macrons successifs savaient très bien où tout cela menait, ce qui implique que l'actuel président aurait délibérément sacrifié une très grande entreprise stratégique française aux intérêts américains. Mais dans quel intérêt alors ? Espérons que l'affaire grossira suffisamment dans l'opinion publique pour que la justice puisse faire son travail, et si possible avant que Macron ne soit nonagénaire.
Par précaution, je suis né la veille de ma naissance.
Et une petite dernière chronique d'actualité, Jean-Marc, je sais pas, par exemple Erdogan, Trump.
Et oui, c'est difficile de... J'avais écrit une chronique avant l'invasion et il a fallu que je la modifie parce que Trump arrive toujours à nous surprendre. Le président le plus débile, le plus ridicule et le plus dangereux que les États-Unis aient élu est en train de se dépasser avec l'affaire du retrait des troupes US du nord de la Syrie. Il a suffi de deux ou trois coups de fil avec le boucher du Bosphore pour que Trump, en ordonnant le retrait des troupes américaines du nord de la Syrie, n'offre une autoroute à l'armée turque pour qu'elle aille génocider un peu les Turcs. Note de l'historien, il est vrai que l'armée turque est meilleure en génocide et en répression qu'en guerre contre des États. Bref, il est grand temps qu'on envoie Trump à l'asile de fous pour la sécurité du monde et Erdogan au TPI. Ne serait-ce pas l'occasion aussi de créer l'État kurde tel qu'il avait été prévu après la Première Guerre mondiale, dans les traités de l'après-Première Guerre mondiale. Mais il faut dire qu'à l'époque, déjà, les Occidentaux avaient lâché les Kurdes.
On a un abus d'hommage, là, parce qu'on a oublié de faire l'hommage à Jacques Chirac.
On s'en fout.
Ah oui, on s'en fout.
Ah oui, on s'en fout.
Ah, on s'en fout, d'accord. Ben, qu'est-ce qu'on fait comme hommage, alors ?
Il y a quelques jours, il y a un politicien de droite, assez caricatural, menteur, voleur, inutile, qui est devenu subitement un type sympa, juste parce qu'il était mort. Alors je me suis dit que si un mec comme ça, si on pouvait être fan de Jacques Chirac aujourd'hui, eh ben, nous, à gauche... On n'a aucune raison d'avoir honte d'être fan de Georges Marchais.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3, vous êtes sur l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du CAF et les membres de Attac.
Et nous passons à l'interview de notre invité, donc Blaise. Bonjour Blaise.
Bonsoir.
Oui, c'est plutôt bonsoir. Et donc tu es là au nom du collectif pour le Triangle de Gonesse. Mais beaucoup de gens connaissent plutôt le sujet de Europa City.
Oui, parce que c'est la triste célébrité de ce lieu, le Triangle de Gonesse, situé dans le Val d'Oise, à proximité de Seine-Saint-Denis, et qui, pour si ça peut parler plus aux gens, est au sud de l'aéroport Charles de Gaulle, Roissy Charles de Gaulle. Je suis tiqué. Et en dessous, c'est l'aéroport du Bourget. Et donc, est-ce qu'on a entendu vraiment parler ? C'est quand, pendant le débat public sur le Grand Paris Express, le métro automatique, fin 2010, Auchan est intervenu dans une réunion et a dit bah, moi je veux faire un projet super de centre commercial et de loisirs à Gonesse, et pour ça il me faut que l'État me donne une gare du Grand Paris Express sur le triangle de Gonesse en plein champ, parce qu'aujourd'hui, à l'époque même déjà, c'était il restait sur les 1000 hectares du triangle de Gonesse, il restait à peu près 700 hectares de champs. Et pour son projet, Auchan a demandé 80 hectares de champs et une gare, notamment, et une gare aussi du Grand Paris Express en plein champ. Ce que le gouvernement lui a donné peu de temps après par un décret dans la liste des 68 gares du Grand Paris Express. Et donc ça a commencé comme ça. L'opposition au projet est très vite, au projet démesuré a très vite pris naissance, et ça, le Auchan a fait plein de marketing sur son projet d'urbanisation, sachant que autour du projet d'Auchan sur 80 hectares, il y a une zone d'aménagement concertée qui existait, dont le projet existait déjà avant, mais qui a trouvé très bien que Auchan serve de fer de lance avec son projet Europa City pour urbaniser la zone, parce que 80 hectares de bureaux en plein champ sans rien d'autre, pour que les cadres s'amusent un peu le midi ou le soir, c'était pas top pour attirer des entreprises pour acheter ou louer des bureaux. Et donc le débat il a commencé à augmenter, et on a obligé le porteur de projet, le groupe Auchan, à organiser un débat public dans le cadre de je ne sais plus quelle loi qui oblige tout gros projet d'aménagement à organiser un débat public. Enfin, à financer un débat public organisé par la Commission nationale du débat public, c'était en 2016, qui a permis de faire connaître les mauvais côtés du projet, et notamment le fait, ça a prouvé, et c'est Auchan même qui l'a dit, que son projet, la rentabilité économique du projet, reposait sur la surface gigantesque de commerce, 250 000 m² de commerce et restaurants, et donc ils font tout pour éviter de présenter le projet comme un projet de centre commercial, mais c'est par sa nature économique, c'est un centre commercial, et derrière un peu de culture et de loisirs.
Auchan, c'est la famille Muliez.
Oui, alors c'est la famille Muliez qui, à part Auchan, possède Decathlon, Kiabi, Noroto, enfin j'ai arrêté la pub, qui est la première fortune française familiale. Et qui également est connu pour avoir une partie de la famille qui est exilée fiscale en Belgique, à Neche. Hein.
On est des gens bien recommandables. Et si on veut décrire
dans le sens de l'intérêt général.
Dans l'intérêt de tous, l'intérêt de toute la famille, oui. Et si on veut parler du lieu, parce que on parle de ce que veulent faire les gens, mais avant et encore aujourd'hui, pour, on l'espère, le maximum, ce triangle, parce que quand on voit ça de Paris, ou même quand on passe sur l'autoroute A3 en le frôlant, oui, on ne se rend pas compte. Mais c'est une zone de champ ouvert, utilisée, et c'est même une zone de maraîchage qui nourrit une partie de Paris.
Alors aujourd'hui, à l'époque, il y avait pas mal de maraîchage. Avec le développement de la grande culture, il n'y a plus beaucoup de maraîchage sur le triangle, mais il y a encore des forages qui permettent de refaire du maraîchage sans problème avec de l'eau. Et au niveau agricole, géographiquement, c'est la plaine de France qui est des terres très 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 fertiles, comme le plateau de Saclay par exemple, et qui sa fertilité a même donné son nom à la France à la fin, parce que le pays, la France tire son nom de la plaine de France, de ce coin là qui était hyper fertile, et même on servait à Paris autrefois le pain, peut-être encore maintenant en partie le pain avec de la farine venant de cette zone là de Paris. Donc ça, il y a une vraie valeur agronomique à ces terres, du triangle de Gonesse et autour, à préserver. Et sur les 1000 hectares du triangle de Gonesse, il en reste toujours un peu moins de 700 hectares qui sont agricoles. Les 300 hectares qui ont été urbanisés au niveau de un peu vers l'aéroport du Bourget ont été faits pour faire des zones de logistique en créant très peu d'emplois. Ce que le maire de Gonesse lui-même a reconnu en disant que ce qu'il avait fait, laissé faire, c'était pas top et que là, il fallait arrêter de mettre des entrepôts sur des terres agricoles parce que ça crée pas d'emploi.
Et donc ça crée pas d'emploi, pourtant on veut en faire, parce que cette zone avec là, on parle de 80 hectares de ce Europa City, s'il voit le jour un jour, mais le reste des territoires vont s'urbaniser progressivement. C'est ça ce qu'ils ont dans leur rêve, c'est encore grossir l'Île-de-France en population et en béton.
Alors ça, c'est le fantasme du concept de ville aéroportuaire. Et dont la ville aéroportuaire à la sauce nord-francilienne, vous avez le couloir aéroportuaire, parce que vous avez l'aéroport de Roissy, premier aéroport européen sur le continent, hein, parce que c'est plus gros à Londres, mais... Et en dessous, vous avez le premier aéroport d'affaires avec le Bourget. Bon, en moyenne, c'est 2 passagers par avion, hein, c'est ridicule. Mais entre les deux, vous avez le triangle de Gonesse. Et pour eux, il faut tout bétonner entre deux aéroports. Donc même s'il y a des terres agricoles fertiles, une agriculture qui est reconnue comme viable par des experts et ainsi de suite, mais ça fait miroiter des plus-values gigantesques à la fois aux aménageurs, aux entreprises de BTP et aux entreprises immobilières tout court. Et donc il faut y aller sans réfléchir. Et même si, depuis 2013, et malheureusement la fermeture de l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois, bah, vous avez une friche d'une centaine d'hectares limitrophe en face de l'endroit que Auchan veut bétonner pour faire son centre commercial. Vous avez une friche qui est la friche PSA, où là, ça pourrait très bien s'installer.
Et alors, pourquoi ils veulent pas cette zone ?
Eh bien, on en revient, à chaque fois, vous allez voir, on va en revenir à la gare et au Grand Paris Express, parce que l'État a arrêté son tracé de la ligne 17 nord du Grand Paris Express, qui passerait par la gare Triangle de Gonesse. Et comme Auchan a eu sa gare en plein champ, au pied de son centre commercial, eh bien, il veut garder son centre commercial au pied de la gare. Et il pense que ça serait trop compliqué de changer la gare pour la mettre vers la friche PSA. Donc pour lui, s'il veut faire le plus vite possible son projet, il vaut mieux que tout ce qui a été prévu en termes de transport, ça reste pareil et qu'on change pas.
Oui, puis sous une friche industrielle,
c'est plus cher,
il faut détruire, et on trouve parfois un petit peu de pollution.
Ah oui, l'argument du prix à payer pour le foncier est décisif dans le cas d'Auchan, parce que la famille Muliez est très près de ses sous, et acheter des terres agricoles qui sont expropriées entre 5 et 10 euros le mètre carré, c'est pas le même prix que d'acheter une friche PSA déjà urbanisée.
Oui. Et donc si on remonte l'histoire là où on s'est arrêté tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné il y a eu ce fameux grand débat où tout le monde devait pouvoir s'exprimer quand même, non ? Enfin quand même, bordel.
Oui, alors le problème c'est que quand on parle beaucoup des projets, il s'est quand même avéré que plus on parlait du projet, plus ça créait d'opposition au projet. Parce que les aménageurs ou le promoteur comme Auchan, il y a des choses qui ne veut pas trop montrer. Alors le fait que ça soit un projet essentiellement commercial, le fait que les créations d'emplois, les fameux 10 000 emplois qui promet, eh ben, après quelques études qui ont été faites par des communes du 93 et même par un expert nommé par la commission du débat public à la fin, parce qu'on a ainsi, après que les opposants aient insisté, elle a été obligée de nommer un expert pour dire quelles seraient potentiellement les créations d'emplois ou pas, et bah, ça a fondu comme des jeux au soleil, les emplois créés. Donc l'argument principal qu'avançait Auchan, qui faisait miroiter pour ce territoire-là, de créer plein d'emplois, il a quand même été démonté par le débat public, en plus du fait que c'était un centre commercial. Et c'était le moment où le commerce, les centres commerciaux commençaient à plonger au niveau fréquentation et que notamment ce coin-là où il y en a plein autour.
Et donc c'est là où est née toute une opposition et où s'est permis de constituer le collectif pour le Triangle de Gonesse, mais on va en reparler après une petite pause. Alors on fait une pause musicale, mais une pause musicale avec Patrick, auquel nous rendons hommage, un ancien animateur de cette émission, et nous écoutons Patrick au chant et tout le chœur du Piaf qui l'accompagne. C'était une émission qui date déjà de novembre 2012, et ça s'appelait à l'époque d'un certain Premier ministre qui s'appelait Manuel Valls, un truc comme ça. Ça s'appelait La Valse à mille temps.
Au premier temps, Manuel Valls, ce que j'entends m'étonne déjà. Au premier temps, Manuel Valls, je m'inquiète car je m'aperçois que le ministre prend des mesures qui ne vont pas de soi. Que le ministre prend des mesures, et je murmure tout bas. Le Valls prend le temps d'offrir aux immigrants, d'offrir aux sans-papiers, de se faire réexpédier au-delà des frontières, aujourd'hui comme hier. Valls prend aussi le temps pour les manifestants d'améliorer encore la raison du plus fort contre ces braves gens en bien les encadrant. Valls prend encore le temps d'approuver largement qu'on resserre la bride et qu'on livre à Madrid la petite Martin Labasse en raison de ses phrases. Valls prend même le temps de garder quelque temps, d'enfermer des enfants en centre de rétention. Ce n'est pas la prison, mais guère plus réjouissant. Valls prend soudain le temps de courir à plein temps dans le 93, dans le port de Marseille, et d'aller jusqu'en Corse pour voir si ça se corse. Et Valls a mis le temps de comprendre brusquement qu'il n'aura pas le temps de patienter 5 ans dans ce gouvernement, qu'avance lentement. Au deuxième temps, Manuel Valls, je l'entends donner de la voix. Au deuxième temps, Manuel Valls, on l'entend crier son effroi. L'UMP, c'est de l'imposture. L'UMP nous a mis aux abois. Mais l'UMP lui casse la figure. Manuel Valls regrette déjà une Hollande qui prend des mesures. Hollande qui mesure notre émoi, lui donne une leçon de mesure. Car l'UMP fredonne déjà. Valls démission, il n'y aura plus d'émission pour le Valls à deux temps dans ce gouvernement et son rythme hésitant. On entend s'indigner tous ceux qui ont valsé, qui se sont fait larguer aux dernières élections, qui ne l'ont pas digéré et qui dansent en rond. Il y a le Copé, le Morano, il y a encore le Copé, il y a la Kosciusko, il y a toujours le Copé, il y a même le Sarko, et tout ce monde valse, Sarko valse, Sarkopé valse, et ça valse, et ça valse. Pour mille temps.
Fréquence Paris Pluriel, l'émission Monde d'Emploi 106.3. Vous êtes ce soir avec des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et nous reprenons notre interview avec Blaise, qui intervient ici au nom du collectif pour le Triangle de Gonesse. On vient d'expliquer l'historique de ce Triangle de Gonesse par rapport au grand projet d'Auchan Europa City, aussi par rapport à cette gare de la ligne directe pour ceux qui ont des belles valises et des cravates, du Roissy Charles de Gaulle jusqu'à Gare du Nord. Et nous allons maintenant parler, bien évidemment, de l'opposition à tout ça et comment s'est constitué un collectif que vous pouvez, bien entendu, rejoindre.
Le collectif donc est né peu après le débat public sur le Grand Paris Express et a grossi au fur et à mesure en s'ajoutant avec des associations et en s'étendant à toute l'Île-de-France, voire avec des soutiens même en France. Et au tout départ, c'était des gens qui se connaissaient de par l'opposition au projet de circuit de Formule 1, dont un des trois lieux devait être pressenti, un des trois candidats. C'était vers dans le Val d'Oise, vers Sarcelles, Villiers-le-Bel et ainsi de suite. Donc les gens se connaissaient. Et donc il y a eu un effet boule de neige en croissant au fur et à mesure avec les enquêtes publiques. On a eu des enquêtes publiques, des concertations et ainsi de suite. Et donc ça a permis de se roder, de rencontrer du monde et ainsi de suite. Et après le débat public, on nous a prêté un terrain sur le Triangle de Gonesse qui nous a permis d'organiser des rassemblements depuis 3 ans là, et qui font venir maintenant plus d'un millier de personnes au moins tous les ans, et pour connaître le lieu, ce qui est très important parce que les gens qui viennent, ils prennent ils prennent conscience de l'importance du paysage, de l'importance des terres agricoles. On leur propose même de cultiver. On fait des récoltes. On sert depuis 2 ans la soupe à des gens avec les citrouilles qu'on a, et d'autres légumes qu'on a cultivés sur place. Et donc, il y a vraiment une. Ça permet aux gens de prendre conscience et de s'approprier le lieu.
Et au-delà même, il y a une recherche de réimplanter du maraîchage sur cette zone.
Alors, en plus, il y a un projet agricole qui s'est mis en place, qui s'appelle Karma, pour voir comment on pourrait faire évoluer avec l'agriculture, avec les personnes présentes sur place, pour aller vers un modèle plus intégré d'agriculture plus intégrée dans les communes alentours. Alors, il y a la fameuse question du maraîchage biologique, puisque les cantines scolaires doivent intégrer de plus en plus de repas d'origine bio dans leur menu.
Et d'origine locale.
Et d'origine locale, bien sûr. Oui, là, c'est l'un des objectifs du projet, en plus de formation, de transformation, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est de dire que le triangle de Gonesse, enfin, les moins de 700 hectares de champs qui restent, ça doit rester agricole. Et s'il faut implanter des projets, n'importe quoi, de bureaux ou de loisirs, et ainsi de suite, on ne les met pas sur les champs, on les met dans toutes les zones déjà urbanisées alentour qui existent déjà. On a parlé de la friche PSA, mais il y en a plein d'autres qu'on peut densifier, parce que juste à côté de PSA, vous avez aussi la zone d'activité et commerciale Paris Nord 2 qui pourrait être densifiée. Donc l'idée, c'est on fait évoluer l'agriculture pour la rendre plus durable et plus acceptable par la population alentour. Et le bétonnage ou les emplois de bureaux, on les met ailleurs.
La ville à la campagne à la ville. Et alors, on peut peut-être revenir sur cette gare, parce que dans le fond, c'est complètement absurde de vouloir mettre pour l'instant une gare en plein champ. On imagine qu'avec le projet qui flotte, cette gare, elle doit être abandonnée quand même.
C'est pour que les paysans aillent au travail, en train.
On peut y aller en tracteur non.
Alors, le projet Karma n'a pas besoin de la gare pour voir le jour. Par contre, le projet Europa City, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une de ses exigences de base dès l'annonce du projet. Là, il se trouve qu'avec les Jeux Olympiques de 2024, on a une accélération de la construction à la fois de la gare et de la ligne 17 Nord du Grand Paris Express, dont la gare fait partie. Et le gouvernement, c'est un raccourci, mais c'est pas faux. La société du Grand Paris Express veut commencer ou voudrait commencer les travaux de la gare le mois prochain, une fois la récolte des maïs terminée. Mais l'opposition croissante et les questions climatiques et environnementales commençant à être importantes en matière politique, même pour le président de la République, Elisabeth Borne, la ministre pour faire simple, de l'environnement, a été mandatée par Édouard Philippe pour lui rendre un rapport hier sur l'aménagement de toute cette zone-là, pour qu'ils prennent une décision avant éventuellement d'arrêter ou de freiner ou de laisser tomber Europa City avant le début des travaux de la gare prévus le mois prochain. Ce qui serait une catastrophe pour les terres agricoles du triangle de Gonesse, parce qu'une fois qu'on urbanise et qu'on met une gare en plein milieu des champs, c'est sûr qu'autour tout va être urbanisé, donc c'est la fin des champs à court terme ou à long terme du triangle de Gonesse. Et il faut absolument stopper cette gare avant qu'elle soit construite, et pas seulement la gare, non seulement la gare, mais en plus le tunnelier qu'ils veulent faire commencer à creuser sur le triangle de Gonesse en plein champ, et dont les déblais, une fois sortis de terre, seraient étalés sur le triangle de Gonesse pour que ça soit trié ou définitivement pour faire des petites montagnes artificielles pour Europa City. Donc il y a un double danger lié à la ligne 17 Nord du Grand Paris Express, c'est la gare et le creusement du tunnelier qu'ils veulent faire envoyer sur le triangle de Gonesse en même temps.
Et on rappelle que cette gare, pour l'instant, dans l'état actuel des habitations, les premières habitations de Gonesse sont à plus de 2 km de la gare. Pour l'instant,
1,7, mais ouais. Oui, c'est au-delà de la distance à partir de laquelle, enfin jusqu'à laquelle des gens vont à pied à une gare.
Et
confrontés en septembre dernier, il y a eu des militants du collectif qui ont rencontré des gens du Solidaire du Grand Paris, et je voulais absolument le dire, c'est qu'on leur a répondu qu'ils allaient construire, parce que là, j'imite, j'imagine très bien le responsable du Solidaire du Grand Paris. Nous, on fait juste des gares pour relier les gens entre eux.
Oui, alors là, on relie des aéroports et des zones d'activité avec une future zone commerciale. Voilà, on relie pas vraiment des gens entre eux dans ce cas-là. C'est tout le paradoxe ou l'absurdité de ce projet-là, à cet endroit-là.
Alors, on rentre dans le vif du sujet. Là, on est en octobre. Il y a une envie très nette du gouvernement d'attaquer les travaux prochainement, je crois, mi-novembre.
Voilà. Ils veulent, alors mi-novembre, c'est indicatif, ils peuvent très bien commencer avant la mi-novembre s'ils le veulent, sachant que les entreprises ont déjà les contrats et ainsi de suite. Et donc c'est pour ça que nous on appelle les gens à venir sur le Triangle de Gonesse dimanche 20 octobre pour un événement, en ce moment régulièrement on invite les gens à venir le dimanche se rassembler pour voir et ainsi de suite, qui s'appelle Z Dimanche, puisque si les travaux de la gare devaient commencer après une décision du Premier ministre et du Président de la République, eh bien cet événement Z Dimanche serait appelé à se multiplier, voire à s'étendre dans la semaine.
Oui, parce qu'une ZAD à portée de distance de Paris, mais ça peut faire plaisir à tout le monde, quoi. Une bonne petite ZAD comme on a pu le connaître.
Je crois que en ces périodes de scrutins électoraux, enfin de campagne électorale plutôt, ça n'est pas le meilleur argument de campagne pour un parti qui voudrait gagner les élections de se faire retoquer ou critiquer sur des questions environnementales, de bétonnage de terres agricoles, pour un projet climaticide. Je pense que les élus tout poil veulent éviter ce genre de polémique.
Alors pour aller rejoindre cette ZAD, dernier ZAD dimanche avant le déluge, qui sera donc le 20 octobre à la ZAD du Triangle de Gonesse à partir de 10h, le mieux c'est d'aller sur Facebook pour voir toute la trace du collectif.
Oui, ou sur le projet, sur le site internet non-europacity.com. On met également tous les détails si on n'est pas fan de Facebook.
Oui.
On peut aller voir directement.
On peut utiliser Internet ou alors Internet, quoi. Alors, il y a possibilité de venir camper en amont dès le samedi 19 octobre sur le fameux terrain.
Voilà. Et c'est accessible en transport en commun avec RER B ou D et après prendre le bus 20. Qui part de, soit de, pour la ligne D de la gare de Arnouville-Villiers-le-Bel-Gonesse, ou bien de Parc des Expositions, c'est la gare après Villepinte, sur la ligne B.
Ce serait quand même plus simple avec la ligne 17. Hein.
Ouais. Directement une ZAD avec une gare, ce serait quand même nickel.
Ça, c'est chic, une ZAD desservie par une gare.
Oui, enfin, ils construisent une ZAD avec une.
À Notre-Dame-des-Landes, ça manquait. Hein.
Bah oui, alors, c'était l'essentiel. C'était même prévu dans les projets.
Il devait avoir un aéroport, Marc.
Ouais. Non, mais c'est ce que je réponds aux gens qui me disent ça. À Notre-Dame-des-Landes, c'était un aéroport. Bah, là, c'est une gare du Grand Paris Express. Donc c'est exactement pareil, c'est l'excuse ou le prétexte pour urbaniser des zones à grande échelle, c'est les infrastructures de transport. D'un côté un aéroport en Loire-Atlantique et ici dans le Val-d'Oise une gare.
C'est-à-dire qu'il y a déjà deux aéroports, donc.
Oui, voilà. Enfin, on ne va pas refaire un nouvel aéroport. Déjà, on est entre deux aéroports, alors s'il fallait en faire un troisième.
Et donc, il y a plein d'activités qui ont été faites. Donc, celle-là, c'est le ZAD du dimanche. Il y a eu aussi des marches. Et puis, il y en a encore d'autres prévues, des marches à venir.
Alors, c'est la fréquence pour se retrouver sur le triangle, c'est tous les 15 jours le dimanche. Et si des engins de chantier arrivent, elle augmentera sans doute. Avec le calendrier de construction de la gare ou de la ligne tout court. Le tunnelier peut faire augmenter les visites qui seraient faites sur le triangle.
Et merci Blaise pour toutes ces informations et on espère que beaucoup de gens rejoindront.
Bah oui, venez nombreux le 20 octobre ou le 19 au soir pour dormir sur le triangle.
Et pourquoi ne pas manifester sous les fenêtres de Muliez en Belgique ?
Ah ben, on n'a pas attendu ça pour le faire. Le 17 mai 2017, 2014, pardon, le Triangle pour le le collectif pour le Triangle de Gonesse et trois autres collectifs ont organisé une marche de Roubaix à Neschin, Roubaix où il y a le siège, pour simplifier, de la famille Muliez, et on a fini à Neschin, en Belgique, après avoir marché seulement 8 km, parce que ça, on l'a découvert en organisant le truc, il n'y a que 8 km entre Roubaix en France et Neschin en Belgique. Donc c'est l'exil fiscal, enfin, c'est vraiment tout près, hein, si vous voulez vous exiler.
C'est quand même beau. Ce qui est beau aussi, c'est de penser que peut-être il y a des gens qui croient en l'au-delà. En tout cas, Patrick, qui était parmi nous, y croyait. Alors, un petit hommage, évidemment, on ne peut pas mettre autre chose qu'un alléluia, mais celui-là, il est de Jean-Yann.
Monte Jésus, monte Jésus. Monte Jésus, monte Jésus. Monte Jésus, monte Jésus. Monte Jésus, monte Jésus. Jésus-Christ dit aux apôtres, suivez-moi.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Après avoir parlé du nord de Paris pour la défense du triangle de Gonesse contre le projet du nord de Paris d'Auchan, nous avons aussi parlé d'un autre projet, bien sûr, c'est celui du référendum contre ou pour ce que l'on voulait voter, le projet de privatisation des aéroports de Paris, ce qu'on appelle des ADP. De Roissy, Charles de Gaulle, Orly-le-Bourget. Et plusieurs propos, on rappelle, hein, c'est contre l'intérêt général face à l'urgence climatique. Cet aéroport qui peut être capable de rejeter 30 millions de tonnes de CO2, l'équivalent d'émissions de tous les poids lourds circulant en France pendant la même période. Imaginons si ce nombre de passagers augmente, parce qu'on laisserait ça au privé, qui va grossir ça sans maîtrise de l'État. C'est soumettre à la spéculation immobilière, la bétonisation, on vient d'en parler largement avec toutes les terres qui sont au sud de cet aéroport, avec les fameuses zones de la zone de Gonesse. Parce qu'il y a une volonté de construire un quatrième terminal, etc. On rappelle, l'écologie est incompatible avec la finance. Finance, ça veut dire abandon d'un revenu pour l'État, 173 millions en 2018, 185 millions prévus pour 2019. Et qui va compenser nos impôts, parce que ce projet de vente, ça va rapporter pour un jour, pas pour 20 ans. Et c'est soumettre un patrimoine commun aux règles de la concurrence, de la compétitivité. C'est la porte ouverte, évidemment, à d'autres privatisations d'infrastructures majeures, SNCF, EDF, barrage hydraulique, route nationale. Bref, c'est la perte de contrôle d'un lieu stratégique, des enjeux importants à nous de décider. La démocratie, c'est votre droit. Alors, on attend 4,7 millions de signatures pour que ce référendum ait lieu. On a pu aussi dire qu'un bon million de votants serait déjà pas mal pour aller renégocier en cette période électorale, pour dire à Macron quand même 1 million de votants, c'est pas rien. Même si la loi est à 4,7, il paraît qu'il a pas un jour sous-entendu que peut-être 4,7 millions, c'était quand même beaucoup. Bref, il y a déjà beaucoup de signatures. Rejoignez-la. Alors, pour le faire, vous pouvez aller passer dans différentes mairies qui ouvrent ce vote et vous avez juste à amener votre carte d'identité ou d'électeur. Vous pouvez aussi le faire en quelques clics sur le site du gouvernement, référendum-intérieur.gouv de soutien. Il y a cliquer le soutien, mettre quelques informations issues de votre carte d'identité. Il faut vraiment l'avoir. Il faut même avoir le numéro INSEE de votre lieu de commune pour pouvoir le faire. Mais vous pouvez aussi le faire par papier en téléchargeant un papier CERFA que vous trouvez facilement en tapant simplement référendum pour la sauvegarde d'un bien commun, aéroport de Paris.
Et il ne faut pas rigoler avec ça. Aujourd'hui même, Toulouse-Blagnac, la privatisation a été finalisée.
Halte à la syntagmisation des paradigmes.
Alors on finit par une petite chronique qui s'appelle « Vivre mieux, c'est possible ». Alors elle est entièrement récupérée d'Alternatives économiques de cet été. Un très joli dossier qui s'appelait en fait « 12 idées pour tout changer ». 12 idées pour tout changer, des idées qu'on n'entend pas toujours partout, pas forcément toujours écolo, pas toujours forcément issues peut-être du milieu militant qui rêve peut-être un peu trop. Non, c'est l'Alternative économique qui est allée interviewer des personnes qui sont au cœur de la pensée et au cœur de l'action militante parfois, mais aussi intellectuelle. Par exemple, Meike Fink, qui est responsable de transition climatique juste dans le réseau Action Climat France, et qui, elle, met en avant une mesure parmi les 12 qui est une taxe carbone juste. Alors, c'est quand même un débat qui a mis dans la rue tous les Gilets jaunes et d'autres cet hiver, c'est-à-dire que la taxe carbone a mis une augmentation forte du prix du litre d'essence. 6 centimes d'euros sur le litre d'essence, 13 euros pour un litre de diesel en raison de sa composition plus élevée en carbone, ce qui fait évidemment une charge sur les ménages. Un ménage moyen paie environ 340 euros de taxe carbone par an, ce qui n'est absolument inégal vu qu'un budget fixe pèse plus lourd dans le budget de personnes à revenus modestes. Et cette situation est doublement problématique si en plus on est dans une zone où on a besoin de sa voiture, ce qui fait aussi une différence forte entre zone urbaine ou zone plutôt rurale. Donc
toi, tu vas finir éborgné, hein. Ça sent le gilet jaune.
Ça sent le gilet jaune. Mais pour l'instant, on est enfermé entre quatre murs. On va peut-être être sauvé là. Et cette taxe carbone, on pourrait en faire une plus juste. Alors, une taxe plus juste, c'est quoi ? C'est un petit peu comme pour tout ce qu'on veut faire en transition écologique. C'est pourquoi pas faire un crédit d'impôt qui permettrait aux personnes qui sont prêtes à ce qui souffrent de ça, qui pourraient déclarer, qui prennent leur voiture tous les jours pour leur boulot, d'avoir un crédit d'impôt très concret. Et puis aussi, ce crédit d'impôt pourrait passer une transition écologique. Alors, peut-être pas en trois jours, peut-être même en plusieurs dizaines d'années, mais permettre progressivement aux gens d'avoir des voitures plus responsables par rapport à la société, ou aussi évidemment rénover les logements.
Mais on ne peut pas, parce que l'EPR a encore éclaté les compteurs, il y a encore 1,5 milliard de plus.
Va falloir éponger. Alors on peut éponger avec une autre décision, ça peut être évidemment de taxer différemment. Hein. Par exemple, éliminer les paradis fiscaux. Là, c'est Nicolas Jackson, spécialiste des paradis fiscaux, qui est chercheur au Tax Justice Network, qui nous rappelait ce que c'est qu'un paradis fiscal. Et un paradis fiscal, on peut même, selon certains critères, y classer les États-Unis, évidemment y classer Jersey, les îles Caïmans, les îles Vierges, même le Royaume-Uni qui veut brexiter pour mieux paradis fiscaliser. Et tous ces paradis fiscaux, pour les combattre, c'est peut-être pas forcément d'attendre du politique, parce que le politique, parfois, il est quand même parfois proche des milieux financiers. On rappelait tout à l'heure la famille Mulliez, c'est ça ? Qui est grand ami de la famille Mulliez, déjà ?
Tous les présidents, mais surtout Chirac.
D'accord, j'avais oublié. Ouais.
Et le saint, vous savez.
Hein. Oui, le grand saint. Ouais.
Et Sarkozy grand, encore plus, parce qu'il y a eu un paquet de Mulliez qui a financé son premier cercle en 2017 avant les élections.
Alors, tous ces grands financiers ont besoin des paradis fiscaux pour pouvoir y vivre. Hein. Ces bordels financiers, ils s'en servent. Et cette logique de combat, c'est pas non plus combattre ces lieux-là. Par exemple, si on rappelle l'histoire des Allemands qui ont essayé de vouloir combattre la neutralité suisse pendant la guerre, les Suisses se sont protéger leurs banques, on est même surprotégé à cause de ça. Alors qu'en 2009, quand on a ciblé non pas les Suisses, mais les banques suisses, ils ont un peu évolué. Ils ont commencé à mettre un peu plus de transparence dans leur fonctionnement. Donc il y a des moyens et des lois qui pourraient essayer de permettre d'éliminer ces paradis fiscaux.
En l'occurrence, c'est le pas de loi, alors.
Là, ça pourrait être des normes un peu plus fortes, oui. Une autre logique, évidemment, par rapport à la taxation, c'est d'essayer de mieux taxer les impôts communs sur les bénéfices. Alors là, c'est un économiste de la Paris School of Economics, hein, quand même, la Paris School of Economics, il s'appelle Lucas Chancel, qui rappelle qu'historiquement, la taxation des bénéfices sur les sociétés a été vue comme un complément nécessaire à celle de la taxation sur les revenus et de s'assurer que les riches n'échappent pas à l'impôt. Ça, c'est historique. C'est-à-dire que si on regarde dans les débuts des années 80, le taux national d'impôt sur les bénéfices et entre autres des entreprises était en moyenne de 45% sur les pays de la future Union européenne dans les années 80. Aujourd'hui, on est descendu à 22%. Donc on taxe moins les entreprises qu'il y a à peine une quarantaine d'années.
Et là, il y a une statistique qui est tombée aux États-Unis pour la première fois depuis longtemps. Les 40 personnes les plus riches des États-Unis vont avoir un taux d'imposition plus faible que les 40% les moins fortunés des États-Unis.
Et ça, c'est un mouvement idéologique majeur, de libéralisme bien sûr, mais c'est aussi un changement dans la tête des gens qui trouvent, ils acceptent que les gens leur disent qu'il faut, par le haut, moins faire payer les riches pour que ça retombe sur les autres. On se rend compte que ça ne marche pas, le fameux ruissellement. Alex nous a fait une très belle chronique la dernière fois là-dessus. Alors, une mesure concrète, ça serait quoi ? Ça serait d'imposer un taux minimum, par exemple, de 37% à tous les pays européens. Alors, on peut dire qu'il y aura bien toujours un pays européen pour dire non, surtout si l'Angleterre finit par ne pas nous quitter. Mais dans cette logique, ça peut être aussi des accords bilatéraux, parce que rien n'exige au niveau de deux pays d'avoir un taux minimal d'imposition entre eux.
Donc il pourrait y avoir deux accords bilatéraux qui disent, ben nous on arrête de se faire la guerre sur le dumping fiscal, hein, le fameux attirer des entreprises, on pourrait dire que ben on accepte un chiffre. Alors cet économiste propose un 37%, on pourrait penser plus. Il dit que les recettes apportées par un taux additionnel de 15% permettraient d'avoir une augmentation pour le même pays d'1,5% de leur fameux PIB, cette mesure qui permet toujours de mesurer la richesse et de décider ben, si le pays peut avancer. Donc c'est quand même pas rien. On s'en fait encore un petit dernier sur ces 12 points. Le revenu maximal, ça c'est un de mes préférés. Là, c'est un chercheur de l'IRES, un laboratoire qui s'appelle Pierre Conciadi, qui explique qu'on ne peut pas vivre dans un monde sans limite où les riches payent de moins en moins d'impôts et les pauvres de plus en plus d'impôts. Et l'idée de refuser l'idée même d'un revenu maximal, ça revient finalement à imaginer que à la fin, pourquoi pas, une seule personne pourrait avoir toutes les richesses. Alors, un calcul, ça serait quoi ? Bah, par exemple, imaginez qu'à l'échelle des conditions actuelles, des niveaux de vie, on pourrait quand même imaginer qu'une fourchette pourrait être de 1 à 3,5. C'est-à-dire que le plus pauvre touche 1 et le plus riche, il touche 3,5. 4 fois ce que touche le plus pauvre en revenu. Eh bien, ça voudrait dire que pour une personne seule dans l'État français, ça serait quand même un gain de 6 000 euros par personne seule. Je pense qu'avec 6 000 euros par personne seule, on peut y arriver. Et cette limitation de x 4, bah, elle explose complètement. Avec aujourd'hui, on est à des fois 1 000. Sur certaines richesses. Dans cette idée, est-ce que c'est un frein véritablement de droit ? Non. Ça a été mis même en place aux États-Unis dans les années 20, cette règle où il n'y avait pas d'accord. Alors, c'était pas x4, hein, c'était x100, mais un patron ne pouvait pas gagner plus de 100 fois plus qu'un de ses employés. C'était une règle qui était mise pas dans la Constitution, mais dans les lois américaines qu'ils ont évidemment, je crois, fait sauter plusieurs fois.
À l'époque du laisser-faire, laisser-aller des républicains, c'est-à-dire pas franchement des gauchistes.
Alors, pour permettre ce revenu, il faudrait peut-être même le compenser, c'est-à-dire que si il n'y a pas assez d'argent pour les plus riches, mais ils n'ont qu'à augmenter les plus pauvres. Hein. Ça pourrait même être un cycle vertueux. Alors, il est un peu utopique, celui-là. Mais il commencerait à dire, bah, typiquement, l'argent qu'on retrouve par les plus riches, on peut le donner en compensation. On pourrait même imaginer un salaire minimum qui serait alors remis à niveau par une caisse de l'État. Par exemple, on pourrait faire une recompensation qui permettrait d'augmenter facilement de 20 à 30% le plus bas salaire en baissant ceux écrétés, comme on dit, ceux des plus hauts. Bon, on arrête là. Juste les autres points, il y a limiter les loyers abusifs ou un second parlement européen plus politique qui rassemblerait tous les pays, tous les parlements de tous les pays, essayer de faire de l'investissement au niveau européen à 300 milliards supplémentaires, voire dans les conseils d'administration avoir plus de salariés qui peuvent parler, arrêter les algorithmes, arrêter mettre plus d'action citoyenne. Enfin bref, lisez Alternative économique.
Pourquoi pas interdire le capitalisme, ce serait plus simple.
Et savais-tu que Patrick a aussi écrit sur l'économie ? Je t'en fais une. Mes chaussettes attendent impatiemment la reprise. Et donc cette petite phrase, ainsi que toutes celles qui étaient entre les indicatifs de la BBC, sont issues des Pensées sauvages, écrites par Patrick Le Divna aux éditions La Lucarne des Écrivains en 2016.
Voilà, ça termine notre émission. Alors on remercie à la technique Ludo et puis Claude qui est passé à vers nous voir. Il y avait à la chronique Jean-Marc et Gaël et notre invité c'était Blaise pour le Triangle de Gonesse qu'on remercie à nouveau. Et puis parmi nous, quelque part, il y avait Patrick. Alors dernière pensée pour lui, un de ses chanteurs préférés, c'était Leonard Cohen. Et histoire de bien pleurer, nous allons écouter So Long Marianne.
Come over. The window, my little darling. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy.